Déambulation. Dans notre série de reportages, aujourd'hui une déambulation avec l'école Notre-Dame de Die. Ça se passe là-haut, au cœur du parc naturel régional du Vercors. Durant toute une journée du mois d'avril, les classes de Laura et Bénédicte, 40 élèves réunis, grande section maternelle, CP et CE1, ont fait connaissance des habitants de la clairière des Trois Frères. L'un d'entre eux, Gilbert David, garde forestier retraité et vice-président de la Ligue de protection des oiseaux Drôme-Ardèche, était chargé des présentations. Écoutez plutôt Gilbert et les drôles de piaf.
Gabriel,
on revient ici.
On voit l'expérience là quand même.
La dernière fois j'avais oublié. C'est le signal de rappel.
Gabriel,
quand on entend le sifflet, on revient.
Qui c'est que je peux appeler?
C'est encore mieux.
Tu veux que je t'aide, maîtresse? Nel,
Louis revient.
Ah oui.
Gilbert.
Est-ce que non, maîtresse?
Vous pouvez me dire où on est exactement?
On est en forêt communale de Die, sur la commune de Vassieux, en Vercors. Voilà, donc c'est une forêt qui appartenait aux évêques et qui a été partagée en trois. Une grande forêt qui a été partagée en trois entre la commune de Die, la commune de Marignac et la commune de Vassieux. Et donc il y a 500 hectares à peu près chacun. Donc voilà, c'était un reliquat de la Révolution.
Toujours que vous puissiez voir la clairière. La clairière, c'est cette verre là, l'herbe. Toujours. Si vous ne le voyez plus, c'est que vous êtes allé trop loin, vous revenez. Ok? C'est bon?
Oui, que vous nous voyez.
Pas forcément, mais que vous voyez la clairière. La clairière, c'est quoi?
L'herbe.
C'est ça, là.
C'est où on met, normalement, aussi, c'est on fait brouter les moutons, des fois.
Ou le chalet, la cabane. On part sur deux groupes.
Vous avez été garde forestier.
Oui, moi j'ai été garde forestier. Moi j'aime bien garde forestier, pas technicien ou autre chose. Ça me parle plus. Et j'ai été une quarantaine d'années, enfin 40 ans, dans le Diois. Donc j'étais stationné à Lucan-Diois ou à Boulc, puis après à Die. Donc j'avais des forêts qui appartiennent à l'État, qui est géré par l'Office national des forêts, et qui appartiennent également aux communes, comme cette forêt communale de Die. Donc là, nous, les gardes de l'ONF, là, ne s'occupent principalement que des forêts qui appartiennent soit des collectivités locales, soit à l'État.
Et alors cette forêt de Vassieux, là, depuis que vous la fréquentez, comment a-t-elle évolué?
Cette forêt, là, il y a eu beaucoup de coupes de gros bois, donc il y a eu un rajeunissement qui a été très fort. Maintenant, il y a un nouvel aménagement qui va se faire. J'espère qu'on tiendra compte du respect de ces arbres. Ça commence à venir déjà. C'est vrai qu'il y avait des très gros bois qui ont été coupés. Et c'est bien dommage pour la faune, comme les pics et tout ça, qui ont besoin de... Et puis d'autres, de toute la biodiversité qui a besoin des gros bois, des petits bois, de tout cortège qui va avec. Voilà, donc j'espère qu'avec le nouvel aménagement, on tiendra compte de tout ça.
Quand vous parlez de nouvel aménagement, c'est quoi cet aménagement?
Oui, pardon. Donc l'aménagement d'une forêt, c'est la prévision sur une vingtaine d'années de toutes les coupes et de tous les travaux que l'on va faire dans ces 20 prochaines années. Donc c'est très important. C'est l'avenir de la forêt qui se jouera donc à partir de l'année prochaine.
Qui se retrouve là pour décider de l'avenir de ces forêts?
Alors, donc, sur proposition de l'ONF, hein, de l'Office national des forêts, donc, c'est la commune, comme ça, une forêt communale, c'est le conseil municipal, c'est la mairie qui décide de l'avenir de cette forêt, puisque ça leur appartient. Voilà, donc c'est aussi aux citoyens de prendre part à cet aménagement et à faire. Et voilà, donc savoir ce qu'on veut en faire et dans quel but et quelles sont les priorités qu'on va mettre dans cette forêt. Si c'est que de la production ou de la protection, de la récréation, enfin voilà. Les trois caractéristiques d'une forêt, c'est souvent ça, c'est soit production, soit de la protection, soit l'accueil du public. Souvent, c'est les trois ensemble, mais voilà, donc on va voir comment on va se faire cette répartition et cet aménagement.
Laetitia, cours! Ah, t'en as trouvé un?
Gilbert, donc là aujourd'hui, à ces enfants, vous allez leur présenter quelque chose, évidemment, qui vous tient à cœur.
Oui, je vais surtout leur faire un petit jeu de reconnaissance et de recherche d'animaux, d'oiseaux et de mammifères dans cette partie de la forêt, là, qui est à peu près plate. Et donc, c'est pour leur faire comprendre un peu la biodiversité de cette forêt, qui n'est pas que des arbres, mais aussi des animaux. Voilà. Donc, j'espère que ça va bien se passer avec les petits, mais il n'y a pas de raison.
Vous allez leur faire écouter, regarder, sentir.
Donc, après ce jeu, je discuterai un petit peu sur pourquoi il y a ces animaux et comment ça marche. Et en plus, on va écouter des chants d'oiseaux. Là, on entend le pinson, il y a la mésange. Enfin, il y a pas mal d'espèces qu'ils pourront essayer de reconnaître après chez eux. Un petit exercice d'attention au son de la forêt.
Suivez-moi, on va trouver un loup.
Il y en a un là, regardez.
Un loup?
Oui.
Allô,
allô,
allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô
Gilbert, qu'est-ce que vous avez noté pour ce qui est de l'évolution là, de ces espèces d'oiseaux que vous venez observer depuis tant d'années?
Oui, donc nous on fait ce qu'on appelle un protocole suivi des temporel des oiseaux communs, le STOCK, qui est au niveau national. Et avec ce protocole, on peut, depuis 30 à 40 ans qu'on le fait, avoir des tendances d'évolution des espèces d'oiseaux. Et on s'aperçoit que les espèces nordiques de milieu plutôt froid baissent, évidemment, à cause du réchauffement climatique, alors que les oiseaux méditerranéens augmentent, comme les fauvettes méditerranéennes, ou les chardonnerets aussi, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est une progression vers le nord de toutes les espèces qui sont normalement méditerranéennes, quoi. Alors ici à Vassieux, il fait frais encore aujourd'hui, hein, mais on ne sait pas trop comment va évoluer le climat, la météo. Mais pour l'instant, on a encore une belle hêtraie sapinière. Mais à certains moments, il y a des sécheresses. S'il y a des sécheresses comme l'année dernière qui se répètent trop souvent, la forêt va changer. Hein, et donc la faune qui est avec va changer. On va voir comment évolue tout ça, mais c'est vrai qu'actuellement c'est pas très optimiste pour le hêtre et le sapin. Ça sera plutôt des pins qui viendront à la place, ou des érables ou d'autres espèces d'arbres, et donc des espèces qui sont inféodées vont changer aussi, évidemment. Voilà.
Laura, j'imagine que c'est très inspirant pour une institutrice d'être dans un espace naturel comme celui-là.
Ben oui, il y a plein de choses qui nous viennent en tête. On a envie de faire des cabanes, on a envie de leur apprendre et qu'ils découvrent les espèces d'oiseaux, les espèces d'arbres. On est là dans la nature, on voit les enfants qui créent des choses et ça donne forcément des idées et l'envie d'être le plus possible en fait à l'extérieur, quoi. L'école du dehors, c'est quand même quelque chose d'hyper plaisant. On voit que les enfants font travailler tous leurs sens, ils écoutent, ils voient autrement. Il y a des paroles très poétiques aussi qui naissent, donc je pense qu'en classe, on va essayer de retransmettre tout ça aussi par écrit. Donc je pense qu'il va y avoir des projets d'écriture qui vont se greffer là-dessus, et comme ça partira du concret, de ce qu'ils auront vécu, ça risque d'être autant plus fort, quoi.
Je vous entendais tout à l'heure parler de ce projet qui est celui de venir passer une nuit là, avec votre classe ici.
Oui, alors pour l'instant c'est un projet lointain, mais oui, ce que j'aimerais en fait c'est rejoindre donc la cabane des trois frères, de la peinture, rejoindre la cabane des trois frères, donc en partant de Chironne, et par le col de Vassieux, et arriver là, donc on partirait un vendredi, et on passerait la nuit du vendredi au samedi avec les enfants. Et le petit plus, ce serait d'emmener des ânes avec nous. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est une ébauche de projet, on va dire.
Oui, en tous les cas, ça nourrit les envies, le rêve, les projets.
Voilà, les projets. Et puis, on a cette possibilité de venir ici. C'est une chance que la mairie nous a donnée et on en profite à fond, quoi.
Alors, vous venez régulièrement ici ?
Alors, régulièrement, non, parce que le problème, c'est toujours le transport. Voilà, donc on est venu une première fois à l'automne. Donc, on a eu des activités avec les agents de l'ONF, du secteur. Et puis, là, on revient maintenant, et donc peut-être aux alentours du 10 juin. Et on retournera donc l'année prochaine, au mois de septembre, voilà, pour travailler avec les bûcherons.
Oui, c'est un endroit finalement où vous venez rencontrer à la fois la faune, la flore, mais aussi les humains, enfin toute une biodiversité, quoi.
Voilà, exactement, c'est ça. Là, qui vivent ici, les différents travaux autour de des différents métiers autour de la forêt. L'année prochaine, la continuité, donc, ce sera d'aller aussi visiter une scierie, puisqu'on verra un petit peu, une fois que ce bois aura été coupé, qu'est-ce qu'on en fait, où on l'amène. Voilà, donc on va essayer de rencontrer le maximum de personnes qui travaillent autour des métiers du bois.
Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Quoi? Vous avez trouvé quoi?
Des oiseaux, des animaux. Mais c'est ce qu'on a fait. On est dans la partie la plus dure.
Allez, je vous suis. Gilbert, nous sommes sur la plaine des trois frères là. Qui sont ces trois frères?
Alors, les trois frères de la forêt de Vassieux, la forêt communale de Vassieux, ce sont les trois plus gros sapins qui entourent cette clairière où on est. Et c'était pour cette raison qu'on les appelait les frères, on aurait pu les appeler les grands-pères, mais enfin, c'est les plus gros sapins qui sont dans le coin et qui sont là et qui dominent un peu toute la clairière qui est de cette plaine.
J'imagine que ce sont des arbres protégés.
Alors, je crois que... Enfin, il y a des arbres qui sont maintenant protégés plus ou moins. On conserve des gros arbres maintenant. Avant, c'était pas très bien vu d'avoir des gros arbres parce que ça ne rentrait pas dans les scieries. Donc quand on les coupait, il y a des scieries. Maintenant, les diamètres sont maximalisés. Donc ceux-là, maintenant, ils sont protégés parce qu'ils sont là et que tout le monde les voit. Donc, mais c'est vrai qu'on ne va pas les couper, là.
Mais d'ailleurs, tous ces arbres-là qui sont autour de nous, finalement, d'une certaine manière, ils sont protégés, non? On ne peut pas les couper comme ça, n'importe comment.
Non, il y a un protocole, enfin un protocole si on veut. C'est dans les aménagements qu'on prévoit les coupes. Et là, c'est l'ONF qui va les marquer pour que les bûcherons ne coupent pas n'importe quoi. Ils vont couper que ceux qui seront marqués. Et les gardes sont là pour vérifier si tout va bien, si les consignes sont respectées. Voilà. Les arbres ont aussi une valeur patrimoniale, une valeur écologique. Et une valeur aussi qui pour les générations futures. Les forestiers travaillent toujours pour les générations futures, souvent, quoi. C'est vrai que j'ai vu pas mal d'évolutions dans les forêts. On était dans le pin noir d'Autriche, dans le pin sylvestre, dans le Diois. Ici, on est dans la hêtraie sapinière. Et j'ai vu une évolution dans les espèces aussi forestières. Le pic noir qui était très rare il y a une cinquantaine d'années, quand j'ai commencé, maintenant il y a bientôt 50 ans, donc le pic noir, les pics étaient rares parce que les arbres étaient trop petits. Maintenant, après, quand les pins ont grossi, le pic noir est arrivé, et maintenant il est très courant, on l'entend partout. Alors que lorsqu'on a commencé à faire un atlas des oiseaux nicheurs de la Drôme, lorsqu'on entendait les pics, c'était presque un événement. Alors, donc on voit une évolution dans ce sens-là, positive, mais aussi on voit aussi le déclin dans la forêt de Manial de Romeyer, par exemple, où j'ai travaillé pendant une trentaine d'années. On voit le sapin disparaître parce que le réchauffement fait que il n'y a plus assez d'humidité atmosphérique dans l'air pour qu'il puisse vivre ou survivre. Du coup, il y a des maladies qui s'installent. Et le gui du sapin, qui est très répandu dans ces forêts-là, font mourir tous les sapins. Les hêtres vont peut-être aussi mourir un peu plus tard, ils supportent un peu mieux la chaleur, mais à terme, ils vont peut-être disparaître au profit de d'autres essences forestières, comme la lisier, l'érable, les chênes. Donc on va voir sans doute une évolution. Cette faune forestière est en complète évolution. Il y a la processionnaire du pin qui s'est installée depuis pas mal d'années et qui a favorisé d'ailleurs certaines espèces comme les mésanges bleues, charbonnières, le pic noir aussi, on mange beaucoup, où il fait des trous dans les cocons pour manger à l'intérieur les processionnaires, les chenilles. Voilà. Donc on voit cette évolution-là et on voit aussi qu'il y a une faune qui revient avec l'expansion un peu du milieu forestier, avec la déprise agricole. Il y a des pâturages qui se mettent en forêt. Donc il y a d'autres espèces qui s'installent. Comme le chevreuil qui avait disparu, le cerf. Par contre, le cerf et le chevreuil sont plutôt en extension. Par contre, le chamois, qui supporte mal la chaleur, a une reproduction beaucoup moindre. Et il y a des études qui ont été faites qui font que peut-être que le chamois va avoir des effectifs bien en baisse, et pas simplement à cause du loup, comme certains le disent.
Il y en a des loups, d'ailleurs, là sur autour de cette clairière.
Oui, on peut penser que maintenant, le loup est présent un peu partout dans la Drôme. Hein. C'est une évidence. Maintenant, il est très discret, et on le voit pas souvent. Il n'y a que des pièges photos la nuit, ou les restes de ces proies qu'on peut voir dans la forêt par-ci, par-là. Donc c'est vrai que c'est un prédateur du chevreuil, du sanglier, des marcassins surtout d'ailleurs. Et donc c'est un bienfait pour l'agriculture parce que 80% ou 90% des dégâts faits aux cultures, c'est dû aux sangliers. Et quand les chasseurs disent qu'il n'y a plus de sangliers, c'est bien dommage. Pour l'agriculture, ce n'est pas un dommage, c'est une régulation qui se fait naturellement et beaucoup plus efficacement que la chasse.
Donc le loup est pour quelque chose à tout ça, et il a son importance.
Il a sa place, c'est un élément dans l'écologie et dans la biodiversité qui est indispensable et qui est un régulateur très efficace. Voilà. On n'a jamais vu un prédateur manger toutes ses proies, ça ne se fait pas parce qu'il y a une régulation, un équilibre qui se fait entre les prédateurs et les proies. Voilà, donc c'est évidemment que chaque maillon de la chaîne alimentaire et chaque de la biodiversité a son importance. Et...
Vous l'avez déjà rencontré, vous, le loup ?
Oui, je l'ai vu 2-3 fois déjà. Oui. Oui. C'est une fois d'ailleurs, j'aime bien le répéter parce que c'est une idée qui m'a marqué. J'étais sur un sentier sur le balcon du Glandas et je voyais deux chamois qui me fonçaient sur moi. Donc je trouvais ça bizarre et en plus, ils ne m'avaient pas vu. Et au dernier moment, j'étais sur un sentier où il y avait une barre rocheuse d'un côté et un vide de l'autre, donc c'était un peu coincé. Et là, les chamois, au dernier moment, ils m'ont vu, ils ont sauté les 5-6 mètres de pente qu'il y avait juste à côté. Et le loup qui était juste derrière, ben, il a fait la même chose, il poursuivait les chamois. C'est vrai que bon, après j'ai pas vu la suite, hein, mais je pense que les chamois auront pu se sauver parce qu'ils étaient beaucoup plus rapides que lui.
Mais, et vous alors, quelle émotion à ce moment-là?
Moi ça m'a fait un choc. Alors ça a duré une fraction de seconde, beaucoup moins longtemps que ce que j'ai le temps de le raconter, mais c'est une impression très forte et ça m'a fait bien plaisir. Une autre fois je l'ai vu, c'était en allant écouter les tétralyres, il en reste encore quelques-uns. Et le loup a traversé juste devant nous, j'étais avec mon épouse, et là aussi il s'est mis dans un talus de la route parce que, et il nous a regardé, puis après il a continué tranquillement sans trop se presser. C'était une belle observation là aussi.
C'est ça. Vous, tout de même, votre métier, votre passion vous aura amené à rencontrer tout plein d'êtres vivants.
Oui, ben oui, quand on se promène en forêt, quand on veut bien le regarder, quand on sait regarder, parce qu'il faut bien, c'est très intéressant, on voit plein de choses, et voilà, ça fait plaisir de voir toute cette faune et cette flore qui est très, enfin moi ça me fait très très plaisir en tout cas.
Et c'est ce que vous tentez évidemment de transmettre à ces enfants là aujourd'hui, le plaisir qui est celui d'être dans un environnement naturel.
Oui, alors ce jeu des silhouettes, ça leur a fait prendre conscience qu'il y a pas mal d'animaux qui sont dans cette forêt. Là je vais leur raconter tout à l'heure un peu une histoire sur quelques-uns de ces animaux, et puis je vais essayer de leur faire écouter aussi. Alors évidemment les enfants c'est compliqué d'avoir du silence, mais on va y arriver par petits groupes. Donc je vais leur montrer, enfin leur faire entendre un peu les différents oiseaux qui chantent en ce moment là. Là il y a des pinsons, j'ai entendu la grive musicienne, les maisons charbonnières, La citelle aussi, elle a un peu chanté. Voilà. Donc des petites espèces comme ça, il ne faut pas aller trop non plus loin. Mais s'ils peuvent retenir deux ou trois chants, ça serait toujours ça. Puis, ça. Après, ça peut créer des vocations, hein. On ne sait jamais.
Bon, maintenant, un truc. Maintenant, une chose qui va être très dure. C'est le silence.
Alors maintenant, vous avez entendu maintenant ? Il va falloir faire le. Je vais rapprocher.
Les explications, c'est bien.
C'est utile à faire.
Et pendant le silence, on écoute ce qui se passe autour de soi. Et si vous entendez un bruit, ok, c'est bon.
Maîtresse,
alors,
mais pour derrière nous, c'est ici.
J'ai vu deux, trois fiches comme ça. Il y en a qui ont mis des croix un peu tout autour d'eux. D'autres qui en ont vu que d'un côté.
Il y a tous ces arbres, il y a tous ces oiseaux. Bon, là, on arrive à la fin de l'après-midi, je crois. Bon, finalement, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans tout ça et que vous avez eu envie de transmettre là aujourd'hui?
Alors, que j'aurais aimé transmettre, ce que j'espère avoir fait un petit peu, en tout cas, mais pas complètement, évidemment, c'est de leur faire confiance que une forêt, c'est toute une vie, c'est toute un peuplement qui est très riche de plein d'espèces, si ce n'est pas simplement des arbres. C'est vrai que ce qu'on voit dans une forêt, c'est d'abord des arbres, mais qu'il y a tout plein d'autres choses. Il y a des feuilles, il y a des fleurs, il y a plein d'oiseaux, plein d'animaux. Et aussi, dans le sol, il y a aussi toute une vie. Là, on a parlé de l'arbre qui est mort et qui donne de la vie. En fait, j'aime bien cette expression « laisser vivre les arbres morts », simplement parce que c'est un arbre mort, c'est plein de vie, en fait. Donc, si je peux transmettre ce genre d'idées, ça me plairait bien. Voilà.
Et puis en plus, ça sent bon, comme vous le disiez.
Voilà, ça sent très bon.
C'est tous les sens qui sont animés ici, c'est tous les sens qui sont animés dans une forêt comme celle-là, et c'est évidemment beaucoup d'émotions.
Oui, oui. Là, autant l'oreille, l'odeur, que la vue, et même le toucher, tout est sollicité dans la forêt. C'est ce qui me plaît aussi. Ouais. Mais j'aime bien aussi, comme je dis, moi, ce qui me plaît, c'est de contempler, d'admirer, de ressentir des émotions dans la forêt. C'est ce qui me plaît le plus, quoi. C'est, bien sûr, tout le monde est comme ça. Hein. Voilà, mais moi, j'aime bien être dans la forêt, je me sens bien.
Vous-même, excusez-moi, vous vivez dans une forêt ?
Moi, j'habite à Die, hein, mais je suis le plus souvent possible dans la forêt. J'aime bien m'y retrouver, bien que je suis à la retraite. Je suis toujours, je sais peut-être même plus, parce que j'ai pas de contraintes administratives. Donc, moi, ça me plaît bien de toujours y aller. Et là, je fais encore des relevés ornitho dans les forêts de Die, et ailleurs d'ailleurs. C'est toujours ce contact avec la forêt, avec la nature qui m'enchante.
Et aujourd'hui, il y a aussi les enfants en plus.
Alors, oui, j'essaye de transmettre quelque chose, même un petit peu. Or, si je peux faire passer 2-3 petites idées ou quelques sentiments qu'on peut avoir dans cette forêt, moi, ça me plaît bien, ça me fait plaisir. Or, je ne le fais pas toujours avec les enfants, parce que, bien sûr, ce n'est pas mon métier. Hein, mais c'est, de temps en temps, c'est bien d'essayer d'être en contact avec les générations futures.
Un pivert, moi, entendu.
Un pivert. Ah. D'accord. Bon. Voilà. Alors, en fait, vous avez entendu des oiseaux, c'est bien. Hein.
Des oiseaux normaux.
Bon, moi, j'ai entendu des petits bruits qui passaient par là-bas aussi. C'était quoi comme bruit là-bas?
Des chiens.
Des chiens, ouais. Non, pas tout à fait.
Des oiseaux alors?
Vous n'avez pas entendu autre chose que des oiseaux?
Non, des bruits de pas dans les feuilles.
Si, moi j'ai entendu. Moi aussi j'ai entendu un bruit. Je sais plus ce que c'est.
Vous n'avez pas entendu les enfants là-bas?
Non.
Alors écoutez bien.
Bon, et vous avez entendu le. Vous n'avez pas entendu le vent aussi?
Partout le vent.
Oui, il y a pas partout le vent.
J'ai entendu aussi le vent.
Le vent, oui. Ah oui. Faut essayer d'essayer d'entendre un peu tout ce qui se passe autour des. C'est pas toujours évident parce qu'on a une oreille qui est sélective. On enlève des sons qui sont très forts, mais on entend peut-être des sons un peu moins forts. Ça dépend un peu des oreilles.
Comment on fait la différence entre un chant et un cri d'oiseau?
Les chants, c'est quelque chose de complètement différent du cri. Le chant, c'est fait pour attirer des femelles et éloigner des mâles. Un cri, c'est pour évoquer une émotion ou faire transmettre quelque chose, un danger ou quelque chose de ce genre-là. Et il y a des cris très particuliers chez les oiseaux qui peuvent dire... Il y a un prédateur qui est au sol, donc c'est un cri différent, ou en l'air, si c'est un oiseau de proie. Et c'est un cri qui ne peut pas se localiser très facilement. Parce que autrement, le prédateur qu'il voit, l'oiseau par exemple, il sera en danger. Par contre, lorsque le prédateur a attrapé l'oiseau, donc sa proie, l'oiseau fait un cri très précis en disant « Je suis mort, mais le prédateur est ici, éloignez-vous. » Et ça, c'est de l'altruisme, on peut appeler ça comme ça. Pour eux, c'est un cri normal, qui est très commun et qui peut être compris par plusieurs espèces. Alors que le chant, il est compris surtout de l'espèce en question. Voilà, donc c'est très différent, un cri d'un chant.
Laurent Bardenne et Tigre d'eau douce. Bertrand Belin, oiseau.
Oh, attends-moi, Marie-Lou.
Thank you.
Je survolerai les villes, je survolerai les campagnes, les parkings, d'autres parkings, des monuments, des chantiers. Je survolerai des chantiers. Si j'étais un oiseau, même un tout petit, je survolerai le pays.
Laura, alors est-ce que vous êtes retournée comme vous l'aviez imaginé sur cette plaine des Trois Frères avec toute votre classe ?
Bonjour. Oui, eh bien, on est retournée. Ça y est, on l'a fait. Donc le 9 juin, on est parti du hameau de la Croix à Marignac avec deux ânes, accompagnés de Stéphane. Et nous sommes montés donc, jusqu'à la cabane des Trois Frères avec mes élèves. Voilà, nous avons passé la journée... Tant escompté, voilà, sur un chemin magnifique, avec des enfants motivés, en pleine forme, radieux. C'était super.
Et vous avez passé la nuit là-haut, dans la cabane.
Voilà, alors les plus courageux, en fait, sont allés dormir. Nous sommes restés à la cabane du Pléné, donc un petit peu plus loin que la cabane des Trois Frères. Voilà, donc une partie des enfants et leurs parents sont redescendus sur Die, tandis que les autres passaient la nuit à la cabane du Pléné. Voilà, on était hors du temps, on s'est réveillé au milieu du chant des oiseaux, c'était magique.
Laura, alors du coup, vous avez réalisé un rêve ?
Oui, c'était un rêve, quelque chose que je voulais faire déjà depuis plusieurs années. Et voilà, ça s'est réalisé et c'était à la hauteur de ce que j'attendais. J'ai été impressionnée par tous les enfants, qui sont quand même des petits-enfants, hein, entre 6 et 8 ans. Et le fait qu'ils grimpent sur des chemins escarpés, pentus, voilà, et qu'ils aillent vraiment au bout, en groupe, en faisant preuve de coopération. Hein, parfois, il y en avait qui tiraient un petit peu les autres. En tout cas, ils s'encourageaient les uns les autres. Et qu'ils avancent sans râler, avec le sourire aux lèvres, c'était un vrai bonheur. Et une grande fierté pour moi de voir ces enfants qui avançaient et qui allaient au bout aussi de leur effort. C'était quelque chose d'important pour moi et je pense pour eux aussi.
Et tout ça a donné naissance à l'écriture d'un conte aussi. Alors ce conte, en quelques mots.
Alors, en fait, c'est le conte des Trois Frères. Donc, cela vient de la légende qui existe autour de la cabane des Trois Frères. Les Trois Frères étant trois immenses sapins. Donc, on a inventé un conte qui explique d'où viennent ces trois sapins. Voilà. Et donc, on a créé ça et on l'a exposé dans le cadre de la Nuit des Forêts.
En écrivant ce conte, j'imagine que pour les enfants, c'est une occasion aussi, à leur tour, de transmettre quelque chose à celles et ceux qui sont élus, responsables et qui sont chargés de la gestion de cette forêt.
Oui, de montrer que en fait, la forêt était là bien avant que les hommes l'exploitent et qu'on en a besoin.
Et qu'on en a besoin pour continuer à faire l'école qu'on appelle du dehors, parce que celle-là, elle est précieuse, elle rend heureux, je crois.
Elle rend vraiment heureux, elle déconnecte au monde du réel, elle permet de se plonger aussi dans l'imaginaire, elle permet de respirer, elle permet de se couper du temps qui passe un petit peu, de suspendre le temps. Et oui, ce sont des instants vraiment magiques.
Ces moments permettent certainement aussi, pour une institutrice comme vous, une rencontre un peu différente aussi avec ces enfants, ces élèves.
Tout à fait. On est étonnés par certains, qui se révèlent en fait sur l'extérieur, qui sont totalement, qui peuvent être par exemple introvertis en classe et qui entre les quatre murs de la classe et qui à l'extérieur se révèlent autonomes, volontaires, qui discutent, qui s'ouvrent en fait. C'est des moments importants et c'est toujours un grand plaisir de les vivre.
Et oui, alors hop, on se met autour, on fait un cercle autour de la fleur.
Pourquoi tu veux écraser?
Alors,
j'ai une écrasée.
Attention, regarde. Il y a Milan. Viens, Gaëlle.
Il y a deux fleurs.
Viens, Gaëlle. Soane, viens. T'es avec nous?
Mais pas ici. Oui.
Alors, juste, je vous explique. On va partir. Avec les yeux. Voilà, bon,
Maintenant, lui, il n'a pas fait exprès.
Oui, voilà, quand on court, parfois on ne regarde pas où on met les pieds, mais vous pouvez aller.
Comment tu l'as vécu ce moment de randonnée et puis de soirée là-haut, dans la montagne des trois frères, un peu loin de tout?
C'était Gilbert et les drôles de Piaf, une réalisation RDIWA, la radio du DIWA. Musique et captation de chants d'oiseaux, Bernard Faure. Merci à vous toutes et tous de nous avoir confié vos voix. Une réalisation financée et coproduite par la mairie de Die. Merci à Eric Bellevaux. À bientôt.
Grimon, elle avançait bien et elle était très gentille.
Parce que c'était très amusant. Et j'ai bien aimé le pique-nique. Aussi, c'était super rigolo.
J'ai beaucoup aimé la cabane. Elle était très jolie.
Elle était très douce et très bien coiffée.
Et à l'intérieur?
Elle est vieille avec une belle cheminée.
Il y en a certains qui ont entendu la pluie, mais moi non. On avait un peu de fou parce qu'on était un peu excités.
Prendre mon sac à dos.
Dormir dans des tentes.
Ils étaient gentils et ils faisaient pas n'importe quoi.
Moi, quand j'étais en train de marcher, je regardais un peu autour. Je voyais plein de fleurs, plein d'arbres. J'étais très contente et ça me faisait très mal aux jambes.
La nature, ça fait du bien, non? Comment?
Même il y avait des fleurs qui étaient comestibles. C'est Stéphane qui nous l'a dit. C'est des fleurs violettes. Et on en a vu et on en a mangé quelques-unes avec Roxane.
Et alors, de faire la classe en extérieur dans la montagne, comme ça, qu'est-ce que ça apporte?
Ça apporte du bonheur et de la gentillesse.
Un coup, on est bien amusé. Un coup, on est très bien amusé. Nous, on a fait cache-cache.
Vous avez joué à cache-cache? Eh ouais. Comment c'est ton prénom?
Stéphane.